Tandis que je suivais tous ces mouvements avec je ne sais quel intérêt, elle était parvenue au premier rang du cercle où ces enragés exécutaient leurs exercices. En voulant s'approcher encore davantage, elle fit tomber un long panier à base étroite qu'on n'avait pas ouvert. Presque en même temps, le sorcier et l'enfant firent entendre un cri terrible et un grand mouvement s'opéra dans le cercle, chacun reculant avec effroi. Un serpent très gros venait de s'échapper du panier et la petite fille l'avait pressé de son pied. En un instant, le reptile s'était enroulé autour de sa jambe. Je vis couler quelques gouttes de sang sous l'anneau qu'elle portait à la cheville. Elle tomba à la renverse, pleurant et grinçant des dents. Une écume blanche couvrit ses lèvres, tandis qu'elle se roulait dans la poussière. « Courez donc, cher docteur, criai-je à notre chirurgien-major, pour l'amour de Dieu, sauvez ce pauvre enfant !»« Innocent !» répondit le major en haussant les épaules. « Ne voyez-vous pas que c'est dans le programme ? D'ailleurs, mon métier est de vous couper les bras et les jambes. C'est l'affaire de mon confrère là-bas, de guérir les filles mordues par les serpents. » Cependant, le vieux sorcier était accouru et son premier soin fut de s'emparer du serpent. « Juman ! Juman ! » lui disait-il d'un ton de reproche amical. Le serpent se déroula, quitta sa proie et se mit à ramper. Le sorcier fut leste à le saisir par le bout de la queue et, le tenant à bout de bras, il fit le tour du cercle, montrant le reptile qui se tordait et sifflait sans pouvoir se redresser. Vous n'ignorez pas qu'un serpent qu'on tient par la queue est fort empêché de sa personne. Il ne peut relever qu'un quart tout au plus de sa longueur et par conséquent ne peut mordre la main qui l'a saisie. Au bout d'une minute, le serpent fut remis dans son panier, le couvercle bien assujetti et le magicien s'occupa de la petite fille qui criait et gigotait toujours. Il lui mit sur la plaie une pincée de poudre blanche qu'il tira de sa ceinture, puis murmura à l'oreille de l'enfant une incantation dont l'effet ne se fit pas attendre. Les convulsions cessèrent, la petite fille s'essuya la bouche, ramassa son mouchoir de soie en secouant la poussière, le remit sur sa tête, se leva, et bientôt on la vit sortir. Un instant après, elle montait dans notre galerie pour faire sa quête, et nous collions sur son front et sur ses épaules force pièce de 50 centimes. Ce fut la fin de la représentation, et nous allâmes dîner. J'avais bon appétit, et je me préparais à faire honneur à une magnifique anguille à la tartare, quand notre docteur, auprès de qui j'étais assis, me dit qu'il reconnaissait le serpent de tout à l'heure. Il me fut impossible d'en manger une bouchée. Le docteur, après s'être bien moqué de mes préjugés, réclama ma part de l'anguille et m'assura que le serpent avait un goût délicieux. « Ces coquins que vous venez de voir, me dit-il, sont des connaisseurs. Ils vivent dans les cavernes comme des troglodytes avec leurs serpents. Ils ont de jolies filles, témoin, la petite aux culottes bleues. On ne sait quelle religion ils ont, mais ce sont des malins, et je veux faire connaissance de leur chaque. » Pendant le dîner, nous apprîmes pour quel motif nous reprenions la campagne. Sidi Lala, poursuivi chaudement par le colonel, cherchait à gagner les montagnes du Maroc. Deux routes à choisir. Une au sud de Tlemcen, en passant à Guela Moulaya, sur le seul point où des escarpements ne la rendent pas inaccessible. L'autre, par la plaine, au nord de notre cantonnement. Là, il devait trouver notre colonel et le gros du régiment. Notre escadron était chargé de l'arrêter au passage de la rivière, s'il le tentait, mais cela était peu probable. Vous saurez que la Moulaya coule entre deux murs de rochers, et il n'y a qu'un seul point, comme une sorte de brèche assez étroite, où des chevaux puissent passer. Le lieu m'était bien connu, et je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore élevé un blocos. Tant il y a que, pour le colonel, il y avait toute chance de rencontrer l'ennemi, et pour nous, de faire une course inutile. Avant la fin du dîner, plusieurs cavaliers du Maxen avaient apporté des dépêches du colonel. L'ennemi avait pris position et montrait comme une envie de se battre. Il avait perdu du temps. L'infanterie du colonel allait arriver et le culbuter. Mais par où s'enfuirait-il? Nous n'en savions rien et il fallait le prévenir sur les deux routes. Je ne parle pas d'un dernier parti qu'il pouvait prendre, se jeter dans le désert. Ses troupeaux et sa smala y seraient bientôt morts de faim et de soif.